Et ce matin, on commence une nouvelle série de messages qui s'appelle « Une personne qui parle à Dieu ». Et j'aimerais commencer ce message, et vous allez avoir besoin de faire de la visualisation. Non, on ne parle pas d'ésotérisme, OK? Pas du tout. Vous allez avoir besoin de réfléchir et d'avoir dans votre cerveau la personne dans votre vie qui vous a le mieux écouté, qui a été la meilleure écoute pour vous dans votre vie. J'ai dit de la visualisation, pas de la verbalisation. Si quelqu'un pensait dormir sur le divan ce matin, c'est pas le temps de se rattraper le dimanche matin. Vous avez le droit de le penser, par exemple, que c'est votre épouse. Chacun a son image, son visage. Très plutôt rond, carré, cheveux longs, cheveux courts. Maintenant, la question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce que cette personne-là a été la meilleure écoute? Pourquoi cette personne-là est celle qui vous vient en tête? Là, je vous laisse réfléchir un peu encore. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Peut-être qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Ça, c'est souvent le signe d'une bonne écoute. C'est des choses que les autres font qu'eux ne font pas. C'est quoi les raisons? Et maintenant, si je vous disais que nous avons en Jésus le meilleur auditeur ever. Et si je vous disais que Dieu était la meilleure écoute qui puisse exister? Puis là, je vais vous poser des questions. Peut-être que vous allez faire « Ah, ça fait du sens finalement. » Ouais, peut-être. C'est quand la dernière fois que Dieu vous a coupé quand vous étiez en train de partager votre cœur sur une situation qui n'allait pas? C'est quand la dernière fois qu'il vous a coupé la parole? Probablement jamais. Combien de fois est-ce que Dieu, quand vous lui parliez, vous saviez qu'il détournait l'oreille? Vous avez vu ça chez les uns et les autres, des fois, hein? Quelqu'un qui détourne l'oreille, quelqu'un qui vous coupe la parole? Combien de fois avec Dieu vous avez eu l'impression que Dieu faisait ses... Il y a des gens moins expressifs que d'autres. J'ai accéléré le mouvement pour que vous puissiez tous comprendre. Combien de fois Dieu vous a-t-il fait savoir qu'il était bien là avec vous? Puis il y a cette idée-là de dire, se pourrait-il qu'en Jésus, il y ait cette image de la personne qui écoute le mieux qu'on puisse avoir autour de nous? Et Ésaïe va le dire de la façon suivante. Ésaïe 59 va dire, « Non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » 1 Jean 5, vous l'avez à l'écran. « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » J'aurais pu en amener d'autres, que nos prières sont comme un parfum qui s'élève au trône de la grâce, que c'est quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. Alors non seulement notre besoin n'importune pas notre Sauveur, au contraire, pour lui, c'est une bonne odeur. Et c'est là que des fois, on fait la comparaison avec des gens autour de nous qui sont peut-être plus ou moins bons dans l'écoute, puis on ne dirait pas que c'est un parfum de bonne odeur. Je veux parler de la prière ce matin. La prière parce que, puis je commence pas avec l'affirmation qu'il faut dire tout. C'est pas ce que je dis. Je commence la série sur la prière en disant, se pourrait-il que notre Dieu soit le meilleur auditeur qui existe? Et ça devrait être comme, oh yes, merci Seigneur. Merci Seigneur. La prière est une invitation. Est une invitation à entrer en relation avec la personne qui a la meilleure écoute. La prière est une invitation à établir, à maintenir, à développer une relation avec Dieu. La prière est hautement relationnelle. C'est une connexion avec Dieu. Tu peux entendre un amen à ça? Ouais? On est sur la même longueur d'onde ce matin? La prière est une question de cœur, d'âme, de volonté, d'esprit. Et la prière a tout à voir avec la personne à qui on s'adresse. Jésus nous mène à la prière pour le rencontrer. La parole nous mène à la prière pour le rencontrer, pour découvrir qui il est. Et je lisais cette semaine, en préparation à ce message-là, trouver sur Internet une citation qui est pas, qui n'a pas d'auteur nécessairement, peut-être sur un site web, et puis j'aimerais ça vous la partager. J'ai trouvé ça intéressant. Ça disait « La foi, ce n'est pas croire pour quelque chose, mais c'est croire en quelqu'un. Nous avons foi dans le caractère de Dieu et dans sa volonté de nous bénir et de nous réconforter. » Vous savez, voulons comme peuple de Dieu être des hommes et des femmes qui parlent à Dieu, être des hommes et des femmes qui sont en relation avec Dieu, des hommes et des femmes qui écoutent Dieu de la même façon qu'il nous écoute et si on tendait l'oreille. Vous avez déjà vu ça, quelqu'un qui vous parle tellement rapidement que vous n'avez même pas le temps de glisser deux mots dans une conversation de 5 minutes? Quelqu'un a déjà vécu ça? As-tu juste moi? 5 minutes? 5 minutes sans être capable de dire un mot? Se pourrait-il que parfois nos prières ressemblent à ça? Et que Dieu n'a même pas 2 secondes pour parler? C'est pas une accusation. Il y a des fois où est-ce que justement, il y a des moments où est-ce que tu vas dire à quelqu'un, « OK, excuse-moi là. » Là, j'ai besoin de cracher le morceau, là. Peux-tu juste... j'ai juste besoin de parler, là. J'ai juste besoin de le dire pendant 5 minutes, puis là... Oh, ça fait du bien. Puis l'autre fait comme... Ah, ben c'est pas pire. 4 minutes 45. T'es rentré dans ton temps. Il y a des moments pour ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il y a des moments aussi pour... Lorsqu'on développe une relation, il y a une partie pour écouter, il y a une partie pour parler, évidemment. Et c'est vraiment le cœur de notre série de messages, une personne qui parle à Dieu. Un verset que je trouve vraiment magnifique, c'est dans Hébreux 4, et vous allez l'avoir à l'écran. Si vous suivez avec moi dans votre application, c'est au verset 14 et 16, version seconde 21. Et regardez bien le caractère de Jésus, je trouve ça extraordinaire. « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, celui qu'on a chanté pendant toute la matinée, restons fermement attachés à la foi que nous professons. » En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Ça, honnêtement, si on était tous honnêtes, on enlèverait « au moment opportun » puis on dirait « maintenant ». Mais la prière n'est pas toujours maintenant. Mais on a cette promesse qu'on a un grand prêtre qui est compatissant et qui a un trône de grâce accessible et qui va nous secourir au moment opportun. Mais savez-vous quoi? C'est précieux, ça. C'est vraiment précieux. Et ce texte-là nous montre cette idée de s'approcher de Jésus, de s'approcher de lui, de ne pas s'approcher de reculons, mais de s'approcher avec assurance. Ça nous parle du caractère de Dieu qui est hautement spirituel, qui est hautement souverain, qui est hautement puissant, qui est hautement compatissant, qui est hautement plongé dans la grâce de Dieu. C'est extraordinaire. Ça, c'est cette personne-là à qui on s'adresse, cher ami. Ce texte nous fortifie que l'œuvre de Jésus change toute la dynamique alors qu'on s'approche de lui. Bien que justement la grâce et le secours soient pleinement disponibles alors qu'on reste attaché à cette foi qui est la nôtre, il faut quand même dire la chose suivante. La prière n'est pas un guichet automatique pour retirer des bénédictions après avoir placé notre nip sur le clavier. La prière n'est pas une lettre au Père Noël. La prière n'est pas une garantie que Dieu fera exactement ce que je veux au moment que je veux. J'entends pas beaucoup d'amen, je comprends. Mais savez-vous quoi? Si Dieu répondait à chacune de nos prières au moment et à la façon qu'on le voudrait, de un, aucune persévérance dans l'épreuve, et de deux, on se priverait de bénédictions encore plus grandes parce que Dieu est patient, Dieu connaît comment les choses vont se développer, et Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, même les choses qui nous paraissent troublante. Si Dieu répondait à chacune de nos prières ici, maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on ne serait pas en mesure de découvrir sur le caractère de Jésus. Vous dites, je serais prêt à le faire quand même. Pas lui. Pas lui. Il est patient. Il est patient. Alors, ce que je veux dire, c'est que justement, la prière, c'est pas le Père Noël, c'est pas une mitraillette au ciel, puis tu dis, une fois que je vais pogner la bonne cible, oh, la bénédiction va descendre du ciel. On n'est pas là-dedans. On n'est pas dans une garantie que Dieu va faire tout ce que je veux, tout ce que je pense, au moment X, Y, Z. Il faut se mettre dans la tête que la prière est hautement relationnelle. Relationnelle. Ainsi, l'efficacité ne définit pas c'est quoi la prière. Même si la prière du juste a une grande efficacité. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que ce que tu demandes n'arrive pas que ça veut dire que la prière n'est pas efficace. Est-ce que vous avez déjà répondu à un de vos ados ou à un de vos enfants par le silence? Oui, moi aussi, plusieurs fois. Quand ça fait 10 fois que j'entends, je peux-tu avoir des bonbons? Mon silence est une prière et une réponse. Des fois, ça ne marche pas toujours. Hein? Des fois, il y a des gens qui continuent de persévérer. Hein? Oh, on connaît ça. La prière, si la prière est hautement relationnelle, ce n'est pas son efficacité qui la définit. Ce n'est pas la puissance des mots et la variété de votre vocabulaire qui quantifie cette prière-là. Vous savez, dans l'Écriture, ça veut dire « L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et une des prières les plus belles que j'ai entendues, c'est un enfant qui se réveille et dit « Bon matin, Jésus. » Et il n'y a pas de demande, il n'y a pas de... Mais la prière, c'est relationnel. Lorsque vous vous réveillez le matin, si vous avez soit quelqu'un à votre gauche ou à votre droite, si vous n'aviez pas été sur le divan comme notre frère tout à l'heure qui essayait de se reprendre, il se pourrait que lorsque vous vous réveillez, ben bon matin, bonjour, ça va, t'as bien dormi? Ah, c'est bon, il y a quelqu'un qui a bien dormi. Génial. Extraordinaire. J'espère qu'à la maison aussi, vous avez bien dormi. La puissance des mots, la variété du vocabulaire ne quantifie pas ta prière. Le volume de décibels n'améliore pas ta prière. Le nombre de mots ne qualifie pas ta prière. La prière est hautement relationnelle et elle émane en toutes circonstances. Et ce matin, vraiment, l'angle que j'aimerais nous encourager, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut développer une vie de prière en tout temps. Parce que des fois, on a cette vision-là que la prière, c'est je « shut down » tout. Là. C'est-à-dire que je mets de côté tout ce que j'ai, mon cellulaire, comme Ronald l'a mentionné, et puis là, j'ai averti tout le monde, venez pas me déranger, puis là, je passe 1 heure dans la prière. Est-ce que ça, c'est la prière? Oui. Mais est-ce qu'on peut faire ça en tout temps? Oui. My goodness, vous n'avez pas mon agenda. Et les obligations, c'est, on ne peut pas faire ça. Vous êtes au travail, comment vous allez faire? Vous allez dire à tout le monde, je m'excuse, j'ai un break. J'ai un break de 8 heures aujourd'hui. Il faut que je prie. Et ça va être à tous les jours comme ça. Non. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments où est-ce qu'il faut s'arrêter et vraiment prendre un temps de prière spécifique. Et ça, c'est extraordinaire. Et je ne le renie pas. Je fais juste dire que l'idée de prier en tout temps, c'est peut-être pas dans cette formule-là. C'est ce que je suis en train d'essayer de dire, OK? Et puis, on a besoin de prendre du temps à part, mais on a besoin de développer cette idée de prier en tout temps. Et il y a quelques versets que je veux vous apporter ce matin. On peut les mettre à l'écran. Quelques-uns. Philippiens 4, 6. Ça, c'est le texte qui est le plus souligné dans les Bibles. Si vous voulez savoir si quelqu'un souligne dans sa Bible, vous allez voir à Philippiens 4, 6. Si ce n'est pas souligné, c'est qu'il ne souligne jamais. S'il souligne un peu, il est souligné, c'est sûr. Là, vous dites, hey, allez voir. Même sur les applications, c'est le verset le plus souligné. Ça veut dire, ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. En toute chose, en toutes circonstances, hein? Comme va le dire d'autres versions. Éphésiens 6, 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Jésus va dire à ses disciples, restez donc en éveil, priez en tout temps. Afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. On continue à l'autre diapo, 1 Thessaloniciens 5. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. D'autres vont dire, hey, 1 Pierre 4, 7, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Amen. Il y a cet encouragement-là que Dieu nous appelle à lui parler. Et moi, je souhaite qu'on soit tous des hommes et des femmes qui parlent à Dieu. Qui parlent à Dieu. Et je vais faire un lien avec ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, ce qu'on a prié tout à l'heure, ce qu'on a chanté. Vous savez, une personne qui parle à Dieu en tout temps est quelqu'un qui invite Jésus au centre de sa vie, qui met Jésus au centre de sa vie. Une personne qui s'adresse à Dieu uniquement quand il a besoin, je veux dire une personne qui quémande à Dieu à temps partiel, je veux dire ça, quand ça brasse, bien c'est une personne qui veut que Dieu vienne intervenir par une courte visite à domicile puis s'en aille après. Ce que je suis en train de dire, c'est que je crois que Dieu nous appelle beaucoup plus à inviter Dieu au centre, à travers la prière, d'une façon relationnelle, que de cogner à la porte du Père Noël aussitôt qu'on a besoin de quelque chose. Je sais pas si je le dis de façon imagée pour qu'on comprenne, mais l'invitation de parler à Dieu, c'est pas juste « Ah, il faut que je fasse ça ». Non, c'est une invitation profonde à mettre Jésus au centre de nos vies, Jésus au centre de nos circonstances, Jésus au centre de nos cœurs. Et je pense qu'il y a une invitation là qui est puissante pour vous et pour moi. L'invitation de ce matin, c'est de parler à Dieu, d'être à l'écoute de Dieu, afin de placer intentionnellement Dieu au centre de nos vies. Vraiment. Et le titre de mon message, alors vous dites, ah, c'est pas une personne qui parle à Dieu, ben ça, c'est la thématique. Mais le titre de mon message, c'est « Tous les chemins mènent à la prière ». Et je veux qu'ensemble, on puisse réfléchir à quel point est-ce que tout autour de nous peut nous mener à la prière. Et c'est l'idée de développer une vie, un style de vie où est-ce qu'on parle à Dieu. Où est-ce qu'on parle? Puis savez-vous quoi? On va le faire ensemble. On va parler à Dieu ensemble. Savez-vous que vous êtes capable de parler à Dieu dans votre véhicule, les yeux ouverts, s'il vous plaît? Et pas genre, Seigneur, fais en sorte que ce véhicule-là se tasse maintenant dans le nom de Jésus. Il y a d'autres façons de parler à Dieu, hein? Vous comprenez? Mais faites-le les yeux ouverts. Si vous êtes pour le faire, au moins faites-le les yeux ouverts. Parce que sinon, il y a quelqu'un d'autre qui va prier pour vous. Le char en arrière. Il y a cette idée-là que tous les chemins mènent à la prière. Et je vous le donne, je vous le dis tout de suite, je pensais le dire plus tard, mais hier, je faisais une petite raide de ski de fond, puis j'étais tout seul avec moi-même. Et il y a au moins 4 ou 5 de ces situations-là qui ont fait partie de ma prière pendant que j'en faisais. C'est-à-dire que à travers des pensées qui venaient, j'étais comme, ah, j'étais capable de diriger ce que je voyais ou ce que je pensais en prière. 2 phrases. On peut prier en 2 phrases. On peut prier en 2 phrases, mes amis. Vraiment. Même en 1 phrase. Et voici ce que je veux faire ce matin, c'est je veux vous donner certaines circonstances qui peuvent arriver et qui, tant qu'à moi, pourraient être un bon chemin vers la prière, vers une prière qui est relationnelle avec Jésus. Alors le premier, quelque chose de très simple. Quand mes yeux voient un besoin ou une souffrance, ça vous arrive des fois de voir des gens autour de vous qui vivent de la souffrance, qui vivent un besoin spécifique. Vous savez, au départ, quand j'étais jeune pasteur, j'étais encore jeune, mais quand même. Quand j'étais jeune pasteur, je me rappelle, il y a tellement de monde qui venait me voir. « Hey, peux-tu prier pour moi? Peux-tu prier pour moi? » Puis là, je disais, « Ah oui, je vais prier. » Puis dans ma tête, je me disais, « Je vais m'en souvenir le soir. » Puis le soir, je vais faire la liste, je vais prier pour tout le monde. Puis à travers les années, je me suis rendu compte que plus je disais « je vais prier pour toi », et moins j'avais l'occasion de le faire parce que ma mémoire n'était pas aussi parfaite que j'aurais aimé. Et j'ai pris l'habitude maintenant que lorsque quelqu'un vient me voir, puis là vous dites « ah ouais, ok, je suis allé le voir, il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'il a fait? » Non, non. Mais quand quelqu'un vient me voir, je vais dire « oui, je vais prier pour toi », souvent je le fais dans les 15 prochaines secondes. Parce que plutôt que de dire « je vais prendre un temps de 30 minutes pour la personne le soir ou plus tard quand j'aurai le temps » puis que finalement, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, je le fais tout de suite. Puis je le fais de façon très simple. Je le fais selon le cœur et selon ce que la personne va me dire. « Seigneur, hey, cette personne-là, hey, tu vois, oh, Seigneur, je te prie d'intervenir par ta main puissante. Je te prie que ce besoin de direction-là puisse vraiment être comblé dans le nom de Jésus. » Puis ça, c'est comme ça, puis... Mais moi, je suis devant la personne, puis la personne ne voit pas que je suis en train de prier comme ça. Mais moi, plutôt que d'attendre le soir, je vais le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que je veux tout de suite mettre ça au trône de la grâce. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ouais. Peut-être que c'est une habitude à prendre. Et si on le faisait ce matin? Puis on va le faire de façon très simple, OK? Vous allez le dire dans votre tête. Quand vous avez fini, vous faites juste dire « Amen ». Fait que là, un besoin que vous avez vu récemment, vous le mettez tout de suite devant les mains du Seigneur, dans les mains du Seigneur, right now, maintenant. Go! Amen. La prochaine fois, vous allez vous pratiquer, vous allez garder les yeux ouverts. Ça va? Petit défi. Parce que quand vous êtes devant une personne, puis que là, la personne vous donne le besoin, puis après ça, vous faites ça comme ça à côté d'elle, c'est un peu bizarre. Je vous agace. Vous avez le droit de fermer vos yeux si vous voulez. Mais l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de fermer nos yeux pour être en relation avec Jésus. Amen? Oui? OK. On continue. Ça, c'est le plus simple. La souffrance qui nous mène à la prière, c'est souvent un réflexe naturel. OK, on continue. Quand ma conscience ressent l'effet du péché, ça vous est déjà arrivé d'avoir, c'est comme Dieu place quelque chose, c'est comme, ah, oh, ça fait mal, je suis comme ça, oh. Ah, je vais prier ce soir pour ça. Non, vous pouvez le faire maintenant. Si vous avez quelque chose à cœur, faites-le, les yeux ouverts. Amen. Vous trouvez ça bizarre, hein? Comme le pasteur est bizarre, lui, il prie les yeux ouverts. J'essaie de nous encourager à voir la prière comme quelque chose d'hautement relationnel avec Dieu. On continue. Je sais que là, vous êtes en adaptation, c'est correct. J'en ai encore 8 autres situations de même, inquiétez-vous pas. Vous n'avez pas fini avec moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous êtes dans une situation où vous ne savez plus quoi prier? Je ne sais pas quoi prier pour cette situation-là. En Romains 8, 26, va dire, « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. » Quand ça t'arrive que tu ne sais pas quoi prier, « Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. » Comme pentecôtiste, on va souvent utiliser d'autres choses aussi. Comme moi, par exemple, je vais être en prière, je vais me mettre à parler en langue, pas pour que tout le voisinage m'entende, c'est entre moi puis Jésus, mais souvent, je vais me mettre à prier en langue, puis tout d'un coup, il y a un besoin, il y a une situation, il y a quelque chose qui arrive, puis là, je rentre là-dedans. Je rentre là-dedans selon la direction de Jésus. Puis je commence à prier, je commence à intercéder pour eux. Bon, il y en a qui pensent que les soupirs inexprimables, c'est peut-être le parler en langue. Bon, on n'ira pas dans l'exégèse de tout ça, là. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je fais juste dire qu'il y a des fois où est-ce qu'on est capable, même quand on ne sait pas quoi prier, de juste dire, Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. Amen. On parle à Dieu. On parle à Dieu. Ça va pour ça? Ouais? Là, vous savez quoi prier, fait qu'on n'a pas besoin de se pratiquer pour cela. Vous venez d'avoir un besoin, fait que vous savez pourquoi prier. Ah ah! On va en avoir un autre. Ça, c'est une prière que moi-même, je fais régulièrement. La prochaine, quand mes émotions ont besoin d'être alignées. Oh, 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 oh. Hein? Quand l'anxiété monte, quand la panique rentre, quand la paix est absente, quand on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on est en train de, je ne sais pas ce qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, je vais vous inviter à le faire dans quelques moments. Une des choses que je fais souvent, c'est que j'essaie de demander à Dieu, « Seigneur, peux-tu synchroniser mes émotions avec les tiennes? Peux-tu synchroniser mon cœur avec le tien? » C'est-à-dire que moi, je suis en train de virer fou, là, mais moi, je sais que toi, tu es sur ton trône puis tu n'as pas bronché d'une seconde. Là. Seigneur, peux-tu aligner mes émotions avec toi? Puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans la peur ce matin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit toutes sortes d'émotions de confusion. Bien, je vous encourage à faire cette prière-là ce matin, puis on va prendre le temps de le faire, 15 secondes, deux phrases auprès de votre Papa Céleste. Puis quand vous avez fini, tout ce qu'il y a besoin de sortir de votre bouche, c'est « Amen ». Amen. Peut-être que votre prière pourrait être « Seigneur, rassure-moi ». Seigneur, clarifie mes pensées, dirige-moi, console-moi. Amen. N'attendons pas à l'aurore, pas à l'aurore, mais au coucher du soleil pour parler avec notre Papa céleste. Amen. J'avais dit que ça serait différent. Hein? Prochain. Quand mon cœur désire demeurer en relation avec Dieu. Ça m'arrive une fois de temps en temps. C'est comme si je suis dans un moment banal de la vie. Puis là, je suis comme, hey, il me semble que je suis loin de Dieu. Quand je parle de loin de Dieu, là, je ne suis pas genre dans le champ gauche, genre perdu dans 46 000 couches de toutes sortes de niaiseries. C'est pas ce que je dis. Mais des fois, on sent la connexion. Comme dans un couple, hein? Des fois, ça arrive de dire, hey, il me semble que je comprends pas, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on s'éloigne l'un de l'autre. Ça vous est-il déjà arrivé de faire ça? Ça vous est jamais arrivé? Faites-le. Faites-le. Parce que c'est pas vrai que tous les couples se rapprochent l'un de l'autre pendant 45 ans sans broncher une seule journée. Non? Même chose. Il y a des fois, il y a des moments où est-ce qu'on est dans un moment de la vie de tous les jours, puis tout d'un coup, c'est comme, hey, il me semble que je suis loin du Seigneur. Il me semble que... Puis là, plutôt que de dire, là, moi, quand j'étais jeune, voici ce que je me disais. Ah, je me sens loin de Jésus. Super, rasseoir, c'est 2 heures de prière. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ouais, ouais, ouais. Va être écœurant. C'est là qu'on expérimente la grâce de Dieu, encore une fois. Hein? Parce que finalement, on arrive le soir puis on n'a pas l'énergie de faire 2 heures de prière, pas en tout. Mais on a le cœur, on veut. Mais c'est comme si des fois, on reporte ces choses-là à plus tard alors qu'on pourrait juste les exprimer à Dieu. Là, Seigneur, je me sens loin, je ne comprends pas. Seigneur, je veux être proche de ton cœur. Amen. J'invite à faire cette prière-là, peut-être si c'est la vôtre. Vous pouvez même dire amen dans votre cœur, les yeux ouverts. La prière, les yeux ouverts. Intéressant. Et quand on regarde toutes ces situations-là, puis il y en a d'autres qui s'en viennent, on se rend compte que il y a plusieurs moments dans une journée où est-ce qu'on peut avoir ce type de pensée-là ou ce type d'événement-là qui arrive. Le prochain, c'est quand je vois le bonheur ou que je suis reconnaissant de ce que je vis ou que je suis dans l'émerveillement. Il y a des moments particuliers quand je suis en nature. Je vais dire merci Jésus parce que je vois ce qui est beau puis je peux le dire 20 fois dans une journée. Puis à quelque part, plutôt que de le prendre pour acquis, j'utilise ce que mes yeux voient pour être connecté avec Dieu, pour être connecté avec son cœur, pour être connecté non pas avec la création, mais être connecté avec le Créateur. Des fois, la ligne est mince entre adorer la création puis adorer le Créateur. Il y a toutes sortes de pensées puis toutes sortes de choses là-dessus. Là, mais ce que je veux dire, c'est que je vais utiliser une situation où est-ce qu'il arrive une bonne nouvelle. Ben merci Seigneur, ça va émaner. Je n'ai pas besoin de dire « Amen » après « Merci Seigneur ». Vous n'êtes pas obligé non plus, OK? Mais cette idée-là de « Hey, wow, c'est extraordinaire, wow, c'est beau ce que je vois. Merci Seigneur, c'est tellement extraordinaire ta création. » Et à quelque part, c'est quand on parle de prier en tout temps, c'est justement d'être capable de mettre Jésus au centre de ce que je vois, mettre Jésus au centre de mes pensées, mettre Jésus au centre de mes émotions ou de ce que je suis en train de vivre. D'être capable de dire, plutôt que de dire, hey, Jésus est à l'extérieur, puis quand j'aurai besoin de mon temps de prière, je vais l'avoir. Non, c'est, on met Jésus à l'intérieur de notre vie, on met Jésus à l'intérieur de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit, de comment on vit à gauche et à droite, de nos interactions avec les autres. Merci. Et si tu priais ce matin pour quelque chose qui va bien? Et si tu remerciais Jésus pour quelque chose qui va bien ce matin? Les yeux ouverts. Amen. Merci Seigneur pour ton Église. Amen. Merci Seigneur pour la neige que j'ai pelletée hier. Amen. C'est extraordinaire la neige. Il y a quelqu'un qui a dit que la beauté est dans l'œil de celui qui la regarde. Moi, je trouve ça beau. Mais je comprends que d'autres la trouvent moins bonne, moins belle. Vous avez remercié le Seigneur pour quelque chose de beau qui arrive présentement? Vous avez fait ça? Il y a d'autres moments où est-ce que, je ne sais pas si ça vous est arrivé, peut-être récemment, quand je suis sur le point de faire un pas de foi, ou lorsque je suis en train de faire un pas de foi, Est-ce que vous vous rappelez du roi, ben pas du roi, mais de Néhémie quand il est devant le roi? Et puis là, le roi voit son visage qui est triste, tellement triste qu'il le remarque. Et le roi va dire à Néhémie, « Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il pour que tu sois triste comme ça? » Et Néhémie sait que sa job, c'est pas d'attrister le roi. En fait, il peut se faire zigouiller pour ça. Fait que là, il est comme dans une tristesse parce que lui, il pense à Jérusalem qui est en ruine puis que ça va tout croche. Et puis là, le roi lui pose la question, « Qu'est-ce qui se passe? » Et là, on voit cette espèce de prière, ce flash de quelques secondes, et on l'a par écrit. Ça va, là, je n'ai pas le texte devant moi, là, mais ça va dire quelque chose comme, et je paraphrase, « Hey, j'ai prié mon Dieu. » Puis après ça, j'ai dit au roi, « Comment est-ce que je pourrais être heureux alors que ma ville est dans un désespoir total? » Et il y a comme cette idée-là que le gars est sur le point de faire un pas de foi. One-liner, une ligne, une phrase, une prière, un moment, 3 secondes. Mais ce moment-là était précieux. Et ce moment-là témoigne de la relation que Néhémie avait avec Jésus. Ben avec Dieu, comprenez? Jésus n'était pas encore arrivé dans ce moment-là, excusez-moi. Avec Dieu. Il y avait cette relation avec Dieu au point d'alors qu'il allait faire un pas de foi. Hey, j'oublie pas, je ne vais pas juste parler. Je vais invoquer Dieu. 3 secondes, le roi n'a rien vu. Il n'a rien entendu. Mais dans le cœur de Néhémie, il y avait cette idée-là. Je ne fais pas un pas de foi sans toi, Seigneur. Je ne fais pas ce step-là sans t'y inviter, sans que tu sois là avec moi. Amen. Peut-être que ce matin, tu es dans un pas de foi où tu t'apprêtes à en faire un. Et si tu priais maintenant, 2 phrases, yeux ouverts, avec un amen à la fin. Amen. On est même capable de connecter avec Dieu à travers une prédication, parce que Dieu est là. Dieu voit toutes choses. Intéressant. Prochaine situation. Quand j'ai pris la décision d'alimenter une habitude vitale. Puis là, je le dis comme ça, mais ça pourrait être aussi quand j'ai pris une décision point. Par exemple, ça peut ressembler à une habitude comme une habitude spirituelle de vouloir passer plus de temps avec Jésus, ça pourrait être ça. Mais ça pourrait être aussi de prendre une bonne habitude avec ses enfants, avec son épouse, avec toutes sortes d'autres choses qu'on a besoin de prendre soin. Hein? La vie, ce n'est pas juste le côté spirituel. Il y a corps, âme et esprit. Tout ça est interrelié. On ne prend pas soin de notre corps, l'esprit finit par payer aussi, et vice-versa. Hein? Ça va? OK. Et quand il y a cette habitude-là qui s'étoffe, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou quand on prend cette décision-là? Hey, Seigneur, je veux prendre cette nouvelle habitude-là. Seigneur, merci de m'accompagner, de me fortifier. Seigneur, merci de m'écouter ce matin. Merci d'écouter le cri de mon cœur qui veut faire ça, mais je suis tellement faible, mais j'ai besoin de toi. Seigneur, viens m'aider dans cette décision-là. Amen. Amen. J'espère que vous n'êtes pas trop découragés ce matin, mais je le fais de façon intentionnelle pour qu'on puisse prendre l'habitude. Et c'est l'idée d'être alerte aux situations de la vie. Alerte dans le sens qu'il y a un besoin de souffrance, et je m'adresse à Dieu directement. Il y a une situation où mes émotions sont toutes mêlées, je m'adresse à Dieu sur le coup. Il arrive une décision que je veux prendre, j'inclus Dieu, je mets Dieu au centre. Comprenez ce que j'essaie de faire ce matin? J'espère que vous entendez mon cœur. Et même quand je donne à quelqu'un, hein, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a donné, mais on a prié. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'aime démarrer des cycles de célébration de la gloire de Dieu. Un cycle de célébration de la gloire de Dieu? Oui, sécheuse juste à côté de Ultra Dry. Un cycle comme ça. Qu'est-ce qu'il dit encore? On lit le passage, OK? Prochaine diapo. 2 Corinthiens 9, versets 11 à 14. Et là, il parle d'une collecte qui est en train de s'organiser parce qu'à Jérusalem, il y a des gens qui sont vraiment dans une souffrance, puis ils ramassent de l'argent pour ça. Et puis là, il leur explique, il dit « Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'Évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. » Hey, ça c'est un bon, pas pire cycle, hein? Alors, ce qui se passe, on donne à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là est reconnaissante. Elle célèbre la gloire de Dieu. Mais non seulement elle célèbre la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Prise d'une vive affection, elle se met à prier pour vous. Et vous, vous êtes bénis. Et qu'est-ce qui se passe? Vous célébrez Dieu. Vous célébrez la gloire de Dieu. Et c'est le cycle de la célébration de la gloire de Dieu. Pas pire, hein? Et moi, je crois qu'il y a des gens, des filles jeunesse, qui vont prier pour nous autres. Puis savez-vous quoi? On va être tellement bénis qu'on va continuer de prier à eux autres aussi. Puis ce cycle-là va continuer encore et encore. Alors, moi, je vous encourage, si vous donnez à quelqu'un, peu importe qui, vous donnez de la bouffe, vous donnez de l'attention, vous donnez n'importe quoi, vous donnez un bien. Moi, je me rappelle, il y a une période là, où est-ce que je faisais du ménage chez nous. Un ménage que, bon, tout le monde n'appréciait pas autant que moi. Et il fallait donner des articles et je me plaisais à donner du stock aux gens autour de moi sans demander aucune valeur. Même si ça avait de la valeur, je leur donnais. Puis honnêtement, je priais pour eux puis je savais que Dieu allait multiplier ce que j'avais donné. Je savais qu'il allait me le redonner d'une autre façon puis j'avais juste hâte de voir comment Dieu allait pourvoir. C'était vraiment, c'était pas un jeu, mais c'était un plaisir. Je ne parle pas juste de faire le ménage, je parle plutôt de donner et de voir ce que Dieu allait faire. Là, mon épouse dit « Amen » à ça. mais il y a eu tellement de choses qui se sont passées, c'était extraordinaire. Mais plus je faisais ça, puis plus j'entrais, je mettais le cycle de célébration de gloire de Dieu, là, je mettais ça, puis je faisais sur start. Puis il y avait des belles choses qui se passaient, et je me disais « Hey, et si plutôt que juste donner à quelqu'un, je priais pour cette personne-là en même temps, qu'est-ce que ça peut produire dans le royaume de Dieu? Non? Et si tu bénissais une personne à qui tu as donné récemment? Et si tu la bénissais par ta prière? Tu parlais à Jésus de bénir cette personne-là à qui tu as donné? Pourquoi on ne le ferait pas maintenant? Amen. 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 Un autre qui nous arrive une fois de temps en temps, quand même, il ne faut pas que je l'oublie. Prochaine diapo, s'il te plaît. Quand mes pensées, là, il y a un qui de trop, là, quand mes pensées virevoltent en tentation. Ça vous arrive, ça, d'être tenté par le tentateur? Quelqu'un qui a dit qu'on ne serait pas tenté si la tentation n'était pas aussi tentante? Ça arrive à chacun de nous, n'est-ce pas? Oui? S'il y a un tentateur, c'est parce qu'il est bon. S'il s'est fait appeler le tentateur, c'est parce qu'il était l'expert de la tentation. Et il ne relâche pas. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans un moment de tentation? Est-ce qu'on est toujours capable de dire « Non, regarde-moi, Satan! » On ne fait pas toujours ça, hein? Qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Approchez-vous de Dieu et le diable fuira loin de vous. Alors, plutôt que d'essayer de chasser tout au nom de Jésus, là, et si on s'approchait de Dieu, « Seigneur, regarde, tu vois cette tentation-là, ça me semble être au-delà de mes forces, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Amen. » Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça dans un moment où est-ce que nos pensées virevoltent puis nous aspirent à quelque part où est-ce qu'on sait qu'il ne faut pas être? Des fois, c'est une tentation qui peut être, comment je dirais ça? Des pensées qui vont en vrille dans mauvaise direction. Des fois, ça peut être tentation sur une action ou quelque chose. Ça peut être tentation de même s'auto-dévaluer. C'est pas, la tentation n'est pas juste sex, drug and rock and roll, là, tu sais, vous comprenez? Pas juste ça. Il y a des fois même cette idée-là de se rabaisser comme si on était une tomate pourrie qui vaut rien. Savez-vous quoi? Il se pourrait que ça soit une tentation du tentateur professionnel. Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a ce réflexe-là de dire, « Seigneur, regarde-là, là, je me sens comme une tomate pourrie sur le bord du chemin. Puis je sais que ce n'est pas ton cœur. Seigneur, aide-moi parce que là, je ne suis pas capable de me voir autrement que ça. Amen. » Et il y a des fois, la dernière situation que je veux vous proposer ce matin, c'est quand il ne se passe rien de spécial. Là, vous dites, hey, ça, c'est vraiment un gars qui parle, ça. Hein? Mesdames, il se pourrait que les gars pensent juste à rien. J'aimerais entendre un amen d'un gars ou deux, s'il vous plaît, là. Là, je parle pour vous autres, là. Je parle pour vous autres. Il se pourrait que ce soit juste rien qui se passe. Puis c'est correct. Tu sais, il y a quelqu'un qui a déjà comparé le cerveau d'un homme à une gaufre. Attendez que je vous parle du cerveau des femmes après, OK? Priez pas trop vite. Et dans une gaufre, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a plusieurs compartiments. Fait que souvent, un gars va fonctionner par compartiment. Un jour, il va réfléchir à ce compartiment-là qui est la job. Puis il va penser juste à ça. Puis l'autre compartiment d'après, ça va être telle autre chose, puis telle autre chose. Vous comprenez? C'est un à la fois. Une case à la fois. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on aime mettre du sirop d'érable juste dans chacune des cases. C'est extraordinaire, on en mange une à la fois. Bon, des fois pas. Les femmes, semblerait-il, ce même auteur parlait que les femmes, c'était plutôt des spaghettis. Ça s'entremêle, ça va dans tous les sens, puis tu peux jamais ne plus avoir de bout aux spaghettis. Fait que pour elles, c'est très difficile d'avoir cette idée-là qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que tout est interrelié, c'est-à-dire qu'une émotion peut partir sur une nouvelle histoire qui n'était pas dans sa tête, mais parce que l'émotion est la même, on pensait à « Ah oh là, je pense à mes parents, que là, il est arrivé telle affaire, puis hey, j'espère qu'ils vont bien, puis là, après ça, hey, je pourrais prier pour elles, puis là, hey, hey, ça fait au moins 3 mois que je n'ai pas appelé ma grand-mère. Oh, il faudrait que j'appelle ma grand-mère, je vais mettre ça dans mon agenda. » Puis là, le spaghetti continue, puis infini. Un gars, une boîte, appeler ma grand-mère. Terminé. Rappel terminé. C'est pas moi qui l'ai inventé, OK? On parle de ça d'un cours de préparation au mariage. On bénit nos nouveaux couples. Vous êtes des spaghettis et des gaufres. Multipliez-vous, remplissez la terre. Non, non. Mais il y a des moments où est-ce qu'il se passe rien. Il y a des moments où est-ce qu'il se passe rien. Il y a des moments où est-ce qu'on est seul avec nous-mêmes. Puis honnêtement, nos cellulaires nous empêchent parfois de ces moments-là qui sont plutôt importants. Des moments tout seul avec nous-mêmes où est-ce qu'on peut juste méditer, juste réfléchir à la grandeur de Dieu. Juste réfléchir à « Hey, qu'est-ce qui se passe? Hey, c'est... Seigneur! » Puis là, si vous êtes occupé un peu, « Hey, Seigneur, merci, j'ai un temps tout seul. Wow! Extraordinaire! » Ou « Hey, j'ai rien dans mon agenda. Wow! » Prochain passage, un des versets que vous pourriez méditer, par exemple, ça peut être d'autres choses, mais des fois, même dans ces moments-là où est-ce qu'il semble y avoir pas trop grand-chose, et si on méditait sur la grandeur de Dieu? On peut passer à l'autre passage dans Psaume 139. « Hein, Éternel, tu m'examines, tu me connais, tu sais quand je m'assis, tu sais quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée, tu sais quand je marche, quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. » La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Et là, le verset 14 va dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. Amen. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Et si tu parlais à Dieu de sa grandeur à lui? Et si dans un moment, tu regardais juste les étoiles en disant « ça se peut pas, qu'est-ce que tu as pu créer? » Puis malgré que tu as créé quelque chose d'aussi lointain, tu te soucies encore de ce que je peux vivre dans mon quotidien. C'est une pensée trop extraordinaire pour moi, c'est une pensée trop élevée pour moi. Je ne peux pas imaginer ça parce que moi, je gère une partie de gaufre à la fois. Tandis que toi, tu vois tout et tu m'aimes quand même. Il y a quelque chose là-dedans qui est absolument en dehors de ce qu'on peut même imaginer. Mais des fois, ça fait du bien de parler à Dieu de sa grandeur, de réfléchir à ça. Puis je vous encourage à le faire maintenant. Est-ce qu'on peut? Peut-être avec ce texte-là ou peut-être avec quelque chose d'autre qui vous vient à cœur. Amen. Amen. Dans mon 50 minutes de ski de fond, après ça, je me suis dit, hey, je vais checker. J'en avais au moins 5 que j'avais pu checker, juste des situations de la vie de tous les jours que je vous ai nommées. Est-ce que vous allez les nommer les 10 ou les 12? Je ne sais pas combien j'en ai, je n'ai même pas compté. Mais juste dans un moment, 50 minutes, déjà 5, de prière spontanée comme ça. Imaginez dans une journée comment est-ce qu'on peut être connecté à Dieu et comment est-ce qu'on peut prier en tout temps, comment est-ce qu'on peut faire de Dieu le centre de nos vies. Comment est-ce qu'on peut ramener Jésus au centre plutôt que de vivre les choses comme... Vous savez, dans notre société, comment qu'on fonctionne, il y a comme ma vie professionnelle, c'est un bloc. Ma vie spirituelle, c'est un autre bloc. Santé financière, c'est un autre bloc. Éducation des enfants, c'est un autre bloc. Relations amicales, c'est un autre bloc. Puis on gère les choses de façon comme si tout était séparé. Puis au final, on est dans une situation comme chrétien où à cause de cette façon de fonctionner là, ben c'est comme si on met Dieu comme une place à part, comme s'il y avait un département juste pour lui, alors que Dieu veut bénir autant nos relations, nos finances, veut bénir, oui, notre vie spirituelle, oui, notre couple, nos enfants. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est que Dieu peut être mis au centre de tous ces aspects-là de notre vie professionnelle. Et je crois que lorsqu'on prie en tout temps, on donne l'occasion à Dieu d'être le centre. Alors peut-être que ce matin, ce n'est pas le message qui « Ouais, yeah! » Mais moi, j'aimerais vous dire que ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien de mettre Jésus au centre de tout. Ça fait du bien. Amen. Amen. Fait du bien. Je veux finir avec ça ce matin. Puis, si vous avez besoin de prière, si vous avez un besoin que vous aimeriez qu'on prie, à la suite, quand je vais partir, si vous voulez vous avancer, il y a une équipe qui va venir prier pour vous. Sentez-vous libre. Si vous avez besoin de prière ce matin, on ne veut certainement pas passer à côté. J'aimerais finir avec cette chose, avec ce message. Dieu est le meilleur auditeur qui existe. Dieu a la meilleure épaule sur qui on peut se confier. Dieu est le meilleur ami qu'on peut avoir. Dieu est le meilleur roi qui peut régner sur nos vies. Dieu est la personne la plus significative à qui on ne pourra jamais parler de toute notre vie. Parler à LeBron James, ça n'a aucun lien entre parler à LeBron James ou toute autre vedette versus de parler au Créateur de l'univers. Jésus est simplement l'ami le plus extraordinaire que vous et moi puissions avoir. Et j'aimerais que personne ne puisse se priver d'être une personne qui parle à Dieu, d'être une personne qui ouvre son cœur à Dieu, les yeux ouverts, les yeux fermés, les genoux à terre ou les genoux debout, qu'on puisse être un peuple qui prie, un peuple qui se met à l'écoute, un peuple qui parle à Dieu. Seigneur éternel, nous sommes devant toi. Et Seigneur, nos cœurs, ce n'est pas d'être éloignés de toi, mais au contraire, de vivre cette connexion, cette relation avec toi, aujourd'hui, demain, dans les petites choses qui nous arrivent comme dans les grandes. Seigneur, ma prière, mon cœur, Seigneur, ce matin, c'est que chaque personne ici, chaque personne qui entend à la maison, qui se connecte d'une façon ou d'une autre, puisse être une personne qui te parle, qui prie en tout temps. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen et amen.